France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le jeudi 20 juin. Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, une solution pour désengorger les urgences, des assistants médicaux pour soulager les médecins de ville qui pourront prendre en charge plus de patients. L'accord est signé aujourd'hui. Il sera effectif dès cet été. On voit ça en détail après les autres titres, Agnès.
L'union sacrée autour du référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Une femme peut-être bientôt à la tête de la Commission européenne. Un orage spectaculaire hier soir à Toulouse et le risque de feux de forêt dans le Var. Et puis un jeune basketteur français qui part à l'assaut du championnat de NBA du haut de ses 2m06. Sekou Doumbouya a toutes ses chances.
Les invités d'Inter ce matin. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas.
7h50.
Beaucoup à droite le voient en sauveur et en candidat potentiel. En sauveur de la droite et en candidat potentiel pour 2022. Lui vient d'éviter une nouvelle guerre des droites en renonçant à être candidat à la présidence des Républicains. Il l'a dit hier. Pourquoi n'y va-t-il pas? Eh bien, on va lui poser la question à Bruno Retailleau, président des sénateurs LR. Il sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. 8h20, lutte contre la haine en ligne sur Internet, réforme de l'audiovisuel public. Le grand entretien de la matinale aujourd'hui avec le ministre de la Culture, Franck Riester. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
Ils vont vous accueillir, enregistrer votre carte vitale, prendre votre tension et vous proposer de nouveaux rendez-vous. Les assistants médicaux vont faire leur apparition dans les prochaines semaines dans les cabinets libéraux. Après des semaines de négociations, un accord doit être signé aujourd'hui entre les syndicats de médecins et l'assurance maladie, car ces assistants médicaux seront financés en grande partie par la Sécu. Et en échange, donc Véronique Julia, les médecins s'engagent à soigner plus de monde.
C'est le médecin qui déterminera les tâches à confier à son assistant. Prise de tension, de poids, recueil d'informations, coordination avec d'autres professionnels, prise de rendez-vous, tenue du dossier médical partagé. Le profil de l'assistant variera donc selon les cas du secrétaire médical à l'aide-soignant. On pourra embaucher un temps complet ou un temps partiel et embaucher seul ou à plusieurs médecins. La Sécu financera pour un temps complet 36 000 euros la première année. L'allocation sera ensuite dégressive. De 36 000 euros, elle passera à 27 000 euros la deuxième année, pour être stabilisé et pérennisé à 21 000 euros la troisième année. Le financement sera réservé aux médecins exerçant dans des zones tendues. Pour y prétendre, ils devront s'engager à accepter plus de patients, de 5 à 20% de plus. L'aide allouée tiendra compte du respect de ces engagements. Certains généralistes pourraient ainsi être amenés à suivre jusqu'à 200 patients de plus chaque année. Au total, 57 000 d'entre eux devraient être éligibles à ce soutien financier. Ça veut dire près de la moitié des médecins libéraux. Les premières enveloppes seront versées dès l'automne. 4000 assistants à temps complet. Ce serait un coût pour l'assurance maladie de 150 millions d'euros.
Santé encore, le cannabis à usage thérapeutique. Les premières expérimentations pourraient commencer début 2020. Le groupe d'experts mis en place par l'Agence nationale de sécurité du médicament ouvre la porte à une consommation très encadrée pour soulager certaines douleurs. Le ministère de la Santé doit encore donner son feu vert. Et puis le Conseil d'analyse économique, instance placée sous l'autorité de Matignon, préconise ce matin d'instaurer un monopole public de production et de distribution du cannabis. Le gramme serait vendu 9 euros et pourrait rapporter 2 milliards d'euros de recettes fiscales à l'État. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8 heures. Cette initiative aussi n'avait au départ que peu de chances d'aboutir et pourtant, des élus de tous bords ont lancé hier officiellement la campagne pour recueillir les 4 700 000 signatures nécessaires pour l'organisation d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Si le site internet ne fonctionne pas encore très bien, le meeting qui a rassemblé hier soir députés et sénateurs LR, socialistes, communistes, insoumis et écologiste à la Bourse du Travail de Saint-Denis, a été un moment politique très inhabituel auquel a assisté Laurence Perron.
Pas facile de trouver un militant de droite dans ce meeting unitaire.
Je cherche un militant de droite.
Non, j'ai un costard armé, je suis pas de droite, non.
Les communistes dans la salle sont en force. Sur scène, on fait assaut d'amabilité. Olivier Faure, le patron du PS.
Gilles Carrez, qui est ici, il est un homme de droite, qui fait des choix d'homme de droite. Mais on peut être de droite et faire parfois aussi preuve d'intelligence. C'est pas interdit.
Bruno Le Maire est copieusement hué quand est diffusée cette séquence où le ministre de l'économie raille à l'Assemblée nationale l'alliance de la carpe et du lapin.
Je voudrais quand même relever les contradictions
contradiction de cet équipage de circonstances qui s'oppose à la privatisation d'ADP.
Gilles Carrez, député de la droite LR, rappelle qu'il s'est battu contre la privatisation des autoroutes. Jacques Chirac était président.
Bruno Le Maire, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, franchement. D'ailleurs, Bruno Le Maire, il était au cabinet de Villepin quand ils ont pris cette funeste décision en 2005 de privatisation des autoroutes.
Les Insoumis ont dépêché Clémentine Autain et Éric Coquerel, qui ne veut pas non plus la jouer « Embrassons-nous, Folleville ». Le plus dur reste à faire, recueillir les 4,7 millions de signatures sur un site qui essuie les plâtres. Pour l'heure, et le ministère de l'Intérieur le reconnaît, il y a des bugs. Pour l'heure, 2/3 des connexions échouent.
France Inter, 7h06, le grand mercato européen, Agnès, peut commencer.
5 postes clés à pourvoir et 28 chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent ce soir et demain à Bruxelles pour tenter de se mettre d'accord. En jeu notamment la présidence de la Commission européenne qui pourrait pour la première fois revenir à une femme, Margrethe Vestager, 51 ans, danoise, ex-commissaire à la concurrence, une forte personnalité qui tranche, Louise Baudet, avec l'image un peu grisâtre des fameux technos de Bruxelles.
Margrethe Vestager, son regard bleu-vert, son grand sourire et son franc-parler. Nous, les gens de Scandinavie, nous sommes directs. Alors certains nous trouvent impolis, mais nous voulons être dans le concret. Nous voulons des résultats.
Des résultats et un fait d'armes. La mise à l'amende des GAFA, 13 milliards d'euros pour Apple, plus de 8 milliards pour Google.
L'amende reflète la gravité ainsi que la nature persistante de la violation par Google de la législation antitrust européenne.
Pendant 5 ans, Margrethe Vestager peaufine son image de dur à cuire qui se bat pour une concurrence juste jusqu'à s'opposer au mariage de l'allemand Siemens et du français Alstom.
Nous avons trouvé que la concurrence d'autres fournisseurs aurait été insuffisante pour compenser la perte considérable de concurrence occasionnée par la fusion.
Fureur de Paris qui dénonce une erreur vite oubliée. Aujourd'hui, Margrethe Vestager a les faveurs d'Emmanuel Macron. Question de positionnement et de droite et de gauche et question d'aura personnelle au point d'inspirer une série à succès. Borgen et son héroïne Birgit Nyborg, chef de parti centriste devenue première ministre.
Est-ce qu'un seul d'entre vous a vraiment cru que j'allais démissionner pour devenir femme au foyer ?
Première ministre de fiction et demain peut-être à la ville présidente de la commission.
Et qui sera le concurrent de Boris Johnson dans la course au 10 Downing Street? Les députés conservateurs britanniques vont désigner aujourd'hui le futur adversaire de l'ancien maire de Londres. Ils sont encore 3 en lice et ce sont ensuite les 160 000 militants du parti conservateur qui trancheront d'ici la fin du mois de juillet.
Passer trop de temps devant les écrans, il est 7h08, c'est aussi mauvais pour les yeux.
Et notamment pour les jeunes, le baromètre 2019 de la santé visuelle sera publié dans la matinée avec des résultats inquiétants donc pour les 16-24 ans qui regardent trop d'écrans. Parfois plus de 10 heures par jour et qui, les Aiguillennes, ne prennent pas soin de leurs yeux.
Des yeux qui papillonnent, un mal de tête, une vue qui se trouble et même un début de myopie, voilà autant de signes qui trahissent la fatigue visuelle. Selon l'étude qui vient de paraître, les 3/4 des jeunes adultes en sont régulièrement victimes à force de trop regarder leurs écrans.
On arrive à des chiffres phénoménaux puisqu'on est au-delà de 10 heures par jour.
Catherine Géga de l'ASNAV, l'Association Nationale des Professionnels de la Vue.
Donc finalement, les écrans envahissent totalement nos vies et sans vraiment qu'on s'en rende compte, sauf sur le plan de la vision justement.
Le problème, c'est que face à cette fatigue visuelle, il serait plus de 2 millions de jeunes à ne prendre aucune initiative pour y remédier.
Ils font avec et considèrent que c'est un peu la rançon de ces écrans que l'on a tout le temps sous la main, c'est-à-dire que ils considèrent que c'est normal finalement en fin de journée d'avoir mal à la tête ou d'avoir les yeux qui tirent.
Comment faire alors pour préserver nos yeux? Selon Catherine Géga, il faut apprendre à faire des pauses.
À partir du moment où on commence à ressentir un peu une fatigue visuelle, une gêne quelconque, c'est de s'arrêter 30 secondes à une minute et puis de regarder le plus loin possible pour pouvoir soulager ses yeux. Parce que les écrans, on est obligé de vivre avec et qu'on ne pourra pas faire autrement.
Et autre recommandation, pensez tout simplement à consulter. Pour 1/3 des 16-24 ans, la dernière visite chez l'ophtalmo remonte à plus de 2 ans.
Les Toulousains n'en ont pas cru leurs yeux. Hier soir, un impressionnant orage de grêle avec des vents soufflant à plus de 130 km/h. L'averse n'a duré qu'une dizaine de minutes, mais les pompiers ont dû intervenir près de 200 fois pour des arbres arrachés et des lignes électriques coupées. Dans le Var, c'est la mobilisation générale contre les feux de forêt. À partir du 1er juillet, jusqu'à 450 pompiers pourront être disponibles, appuyés par 4 hélicoptères. Rico Bombardier d'eau. Christelle Marques a assisté hier au lancement de la campagne estivale.
Frapper vite et fort, c'est la philosophie des pompiers du Var pour tuer dans l'œuf tout feu naissant. Car même s'il est impossible de prévoir à moyen terme la météo, tous les indicateurs sont à l'orange pour le colonel Éric Groin, le patron des pompiers du Var.
La sécheresse est bien présente, on a eu un mois de mars-avril très pluvieux, mais maintenant on est reparti sur une partie de sécheresse qui est l'équivalent à peu près de 2017. Néanmoins, je peux avoir après des gros épisodes de chaleur des orages, ce qui fait que ça va calmer le jeu. Et si on n'a pas d'orage et qu'on a du vent, là il faudra faire très attention parce qu'on a eu un mois de juin qui est un mois de juin typique pour une forêt méditerranéenne, mais sur lequel il faut avoir beaucoup de vigilance.
Et donc des yeux dans tous les massifs et un dispositif qui s'adapte quotidiennement aux conditions météo. Et si le feu démarre dans une zone habitée, il faut surtout respecter certaines consignes rappelées par le préfet du Var, Jean-Luc Videlaine.
En cas de feu de végétation important, dans la plupart des cas, et sauf instruction contraire des sapeurs-pompiers ou des autorités, le maintien dans la maison est le mode de protection le plus efficient.
Cela permet en effet de ne pas se retrouver coincé dans le feu et ça évite surtout de gêner l'accès aux sapeurs-pompiers en limitant les véhicules sur les routes.
Et une bonne nouvelle pour les pompiers du Var qui ont obtenu la gratuité sur les autoroutes du réseau lors d'interventions d'urgence, à la clé une économie de 60 000 euros par an. La mort accidentelle hier soir de Sdar, membre du duo Electro Cassius, pionnier de la French Touch de l'électro. Le musicien âgé de 50 ans est tombé d'un immeuble parisien. Il devait se produire demain pour la fête de la musique. Nous y viendrons dans le journal de 7h30. Et on termine avec le rêve américain de Sekou Doumbouya, pépite du basket tricolore, qui va tenter la nuit prochaine aux États-Unis de décrocher une place dans le prestigieux championnat noir américain de NBA. Chaque année, les équipes ont le droit de recruter des joueurs du championnat universitaire et venus de l'étranger lors d'une cérémonie Tao Kubran, la draft qui aura lieu donc la nuit prochaine dans une salle de Brooklyn.
C'est après cette petite musique que l'on saura où va jouer Sekou Doumbouya. Le Français de 18 ans montera alors sur la scène du Brooklyn Center, costume chic et casquette de sa nouvelle équipe de rigueur pour serrer la main du président de la NBA. Doumbouya, c'est 2m06, une saison prometteuse à Limoges et comme il le dit lui-même, un joueur complet.
Je suis actif des deux côtés du terrain, joueur offensif, défensif, scoreur naturel et j'ai une très grande polyvalence, c'est ça qui est ma force.
Avec ses qualités, le jeune ailier est scruté des quatre coins des États-Unis. Il est annoncé très haut dans cette draft, la première marche de son rêve américain.
La NBA, c'est le début de quelque chose. C'est pas une fin en soi. C'est l'endroit où je pourrais le plus m'épanouir, je pense. Y rentrer, c'est facile, entre guillemets. Le plus dur, c'est d'y rester, je vois.
Rester en NBA, comme plusieurs de ses compatriotes, Rudy Gobert, le pivot français, star du Jazz d'Utah, va regarder avec attention l'événement.
C'est toujours super pour moi de regarder la draft et de voir, non seulement les jeunes français, mais tous les jeunes réaliser un peu leur rêve d'arriver en NBA. Donc c'est toujours super et je lui souhaite le meilleur pour sa draft et puis bien sûr pour sa carrière.
Il y a 2 ans, Frank Ntilikina avait été choisi en 8e position par les Knicks de New York. Un record pour un français que pourrait effleurer Sekou Doumbouya cette nuit. Début de la cérémonie à 1h du matin.
Et voilà, Tony Parker est parti, mais la relève visiblement est assurée.
Et c'est parfait, Agnès Soubiran, merci. Premier point route, Marion Bargiaki.
Point route avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale. Conditions sur labanquepostale.fr.
Et un accident, Marion, sur l'A13.
Oui, un accrochage à hauteur de Mantes-la-Ville dans les Yvelines. Quand vous roulez de Cherbourg vers Paris, soyez prudent. En région parisienne, gros ralentissement sur l'A3 de Gonesse à Rosny-sous-Bois. Comptez 40 minutes de trajet supplémentaire. Mais aussi sur l'A4 vers Paris, là c'est une demi-heure. Le pied au-dessus du frein de Logne à Joinville-le-Pont.